Mes frères, mes sœurs, qui êtes avec nous dans la communion fraternelle, nous allons ensemble essayer de regarder quelque chose de tout à fait simple. Puis-je me permettre d'abord de vous poser une question? Vous êtes prêts? Dans votre canapé? Ok. Est-ce que ça vous arrive quelquefois de regarder la météo à la télévision? Et des fois, on dit, tiens, je n'ai pas regardé la météo. Et qu'est-ce qu'elle nous donne, la météo? Eh bien, elle nous indique le temps pour la Normandie, tantôt clair et tantôt gris. Mais moi, je vous propose une autre météo que malheureusement, bien de nos contemporains ne consultent jamais. C'est la météo qui vous donnera le temps moral de l'époque. Quel temps fera-t-il dans certaines époques? Et bien sûr, au début, ça va être très, très, très drôle de tristesse. Regardez sur votre écran. Vous allez voir les dernières nouvelles de demain. Je me souviens, lorsque j'étais enfant sur Radio Luxembourg, il y avait une personne qui s'appelait Geneviève Taboui, qui est originaire d'Alsace, et qui disait... Je vais vous donner les dernières nouvelles de demain. Attendez-vous à, attendez-vous à. Eh bien, quand vous ouvrez la Bible, mes frères et sœurs, quand vous ouvrez la Bible, disons, quand nous l'ouvrons, et que nous demandons au Seigneur de nous conduire sur l'état moral d'une certaine période, voici ce que nous avons. Dans 2 Timothée 3.1, l'apôtre dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Point d'interrogation, qu'en pensez-vous? Deuxième lecture. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7 et au verset 26, l'apôtre dit « À cause des temps difficiles que nous aurons dans les derniers jours. » Regardez, 2 Timothée 3.1. Continue. L'apôtre, dans une autre lettre, 1 Corinthiens, il dit « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'éloignent, mais qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. » Et allons un tout petit peu plus loin, parce que peut-être vous me direz « Oui, mais l'apôtre Paul, c'est un docteur un peu particulier de la Bible. » Prenons l'apôtre Pierre. Tenez, on va en parler, de l'apôtre Pierre. Eh bien, il écrit ceci dans sa deuxième lettre pour nous donner l'image de l'état moral d'une certaine période. Et il dit ceci « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Et il y a une autre version qui dit, c'est intéressant, « Sache que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs qui veulent vivre selon leur propre désir à eux et guidés par leur passion et tournant notre foi en ridicule. » Mais, frères et sœurs, restez avec votre Bible ouverte. Prenez un petit peu l'Ancien Testament. Rejoignons, si vous le voulez, ensemble, le prophète Jérémie. Chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, le prophète dit « Chaque jour, je suis l'objet de leurs chansons. » Et aujourd'hui, certaines chansons que nous pouvons entendre, recevoir, capter, sont des fois remplies d'un esprit moqueur. Et je voudrais vous amener dans une deuxième lecture de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4.1 où l'apôtre écrit ceci « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Voilà donc les actualités pour demain, la météo morale. Et Jésus va aller plus loin avec un texte dans Jean 16 où il dira « L'heure vient, dit-il, où on vous fera mourir, croyant rendre un culte à Dieu. » Et les derniers événements que nous vivons dans notre pays Des gens sont tués au nom, paraît-il, de Dieu. Nous, ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, nous avons été marqués par un drame dans le domaine religieux. Nous ne partageons pas la même doctrine, mais dans le nom de Jésus. Je me souviens du prêtre Père Hamel que j'ai connu à Elbeuf, lorsqu'il était à Elbeuf. Et ça m'a fait mal quand j'ai appris ce qui s'est passé. Lâche ! Dernièrement, à Nice, puis alors, vous n'êtes pas ici, frères et sœurs, devant votre télévision pour que je vous rappelle ce que nous avons entendu. Mais allons plus loin. Il y aura donc des temps difficiles. Certains abandonneront la foi et se tourneront vers des doctrines, des esprits. Mais alors, voici la bonne nouvelle. On va la lire tout à l'heure, on va la lire. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Pierre dira dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, « Mais dans les derniers jours, Dieu, qu'est-ce qu'il fera ? Il répandra son esprit sur toute chair. » Il y a du négatif dans le monde, mais dans le ciel, Dieu a décidé de parler et de répandre de son esprit. Le croyez-vous ? L'Esprit Saint. Et Jésus a dit, il sera éternellement avec vous jusqu'à son glorieux retour. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nos frères et sœurs ont chanté magnifiquement, j'ai beaucoup apprécié les paroles de ces chants qui nous parlent de paix dans la tempête, de paix dans les difficultés. Et cela m'amène à vous proposer une lecture dans Matthieu chapitre 14, et à partir du verset 24, où Jésus met ses apôtres dans la barque pour qu'ils passent de l'autre côté. Lisons, si vous le voulez, à partir du verset 24, dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu. Je vous laisse quelques secondes. Oui, c'est à côté de vous, sur votre canapé, devant votre table de travail. Allez, Matthieu 14. 24. Ça va pas trop vite ? Allez, on y va. La barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. C'est alors qu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent oh, « c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux !» Jésus dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de petite foi, pourquoi tu doutais ? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu » et nous pouvons dire « En nous, ensemble, chez nous, ici, Amen !» Oui, nous connaissons, nous les chrétiens, ce texte. Et je voudrais, frères et sœurs, en tirer trois regards. Trois regards. Vous savez ce que c'est qu'un regard ? C'est vite fait. Hein ? Nous allons jeter un regard, si vous le voulez, dans trois textes de la parole de Dieu. Car ces 12 qui passent un mauvais moment, ces 12 qui traversent la mer dans une mauvaise période, dans ce texte, il y a deux bonnes nouvelles. En pleine tempête, il y a deux bonnes nouvelles. Peut-être que ce matin, frères et sœurs, vous aussi vous êtes dans la tempête. Par la maladie, peut-être votre femme est malade, très gravement malade. Peut-être votre mari, peut-être vos enfants. Les résultats du labo sont alarmants. Et votre tempête, c'est cette petite maison que vous avez achetée et le chômage qui vient de vous frapper. Je ne sais pas. Mais essayez bien de marquer dans votre vie qu'est-ce qui est en train de vous secouer, de vous balloter à droite et à gauche. D'accord ? Et dans ce texte-là, qui sont balottés à droite et à gauche, il y a deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles. Voulez-vous que je vous donne ? La première nouvelle, c'est que nous avons la vision d'un Jésus extraordinaire. Vous avez déjà vu, vous, un homme ou une femme, traverser la mer ? Traverser la Seine ? Jamais vu ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que le personnage Jésus, fils de Dieu pour nous, fait une chose que nous n'avons jamais vue. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ce Jésus qui fait ce que nous n'avons jamais vu, donne à un homme le pouvoir de faire comme lui. Parce que pendant quelque temps, Pierre a marché. Pierre, un homme comme vous et moi, si c'était une femme, on l'appelait Pierrette, n'est-ce pas ? Il marchait sur les eaux. Voilà les deux bonnes nouvelles. Jésus est extraordinaire et son salut magnifique se répand en nous et nous donne un pouvoir de faire ce que nul homme ou nul être humain ne peut faire. Car vous savez, mes frères et sœurs, ce texte veut nous montrer que nous ne sommes pas seuls, même en pleine tempête. Nous ne sommes pas seuls face à la tempête. Avec Jésus, nous avons un sauveur, ça on le sait. Avec Jésus, nous avons un accompagnateur. Et avec Jésus, nous avons un donateur, puisqu'il donne à Pierre le pouvoir de marcher sur les eaux. Dans la Bible, l'eau, en grande quantité, a toujours été l'image de la mort, de l'épreuve et de la souffrance. L'eau en grande quantité. D'ailleurs, c'est dans la Bible, mais écoutez, c'est aussi dans le journal. Vous avez jamais entendu, il y a quelques semaines, les dégâts des eaux. Ça vous dit quelque chose, ça, les dégâts des eaux. Les eaux en abondance, ça fait des dégâts. La mer qui déborde est aussi un danger pour chacun d'entre nous. Et puis dans la Bible, l'eau en grande quantité est une source de mort, mais la même eau en petite quantité est une source de vie, une source de grâce. Par exemple, la source à sa source, c'est pas bien grand. Hein ? La rosée, c'est de l'eau et ça apporte de la vie au terrain. Le fleuve, quand il est dans son lit, il transporte. L'eau à petite dose, c'est la vie. L'eau qui déborde et qui se déchaîne, c'est la mort. Et cela même à vous proposer donc un premier regard. Regardez Ancien Testament, première partie de la Bible. Vous allez avec moi rejoindre le peuple d'Israël et Moïse et Aaron. Depuis des années, siècles, ils ont un obstacle dans leur vie. Ces pauvres juifs, ils ont Pharaon. Et ce jour-là, Dieu les délivre de Pharaon. Ils sortent d'Égypte. Et mes frères et sœurs, si vous lisez attentivement, vous verrez qu'ils sortent de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils trouvent devant eux ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils trouvent devant eux après avoir lâché Pharaon ? Ils se trouvent devant la mer. Alors là, c'est insurmontable. La mer, c'est intraversable. La mer, mais on n'a pas de pont. La mer, mais on n'a pas de bateau. Ils sont donc dans une situation impossible. Et on les comprend quand ils disent, mais on va se perdre, on va être tous noyés, c'est fini. Et que fait Dieu ? Regardez bien, il secourt, il fend la mer. Et le peuple passe. Vous y croyez ? Il y a un théologien qui un jour me disait, on faisait une réunion contradictoire, il me disait, mais non Moïse, mais non, je m'appelle Moïse, mais pas le Moïse de la Bible. Mais non Moïse, non, non, non. La mer a baissé, c'était la marée basse, tu sais, il me dit, c'était à, pourquoi 40 cm, alors ils ont dû marcher là 40 cm, mais la mer s'est pas ouverte. Mais je lui dis, ce que tu me dis là, c'est encore plus fort que ce que je te dis. Parce que noyer toute l'armée d'Israël dans 40 cm d'eau, il faut le faire quand même. Et dans la parole de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a un Seigneur qui, devant les obstacles dans l'Ancien Testament, franchit l'obstacle, détruit l'obstacle et laisse passer le peuple. Oui, le secours de Dieu est là, qui enlève les obstacles. Le même regard, mais dans le Nouveau Testament. Et là, on se trouve avec des hommes, les douze, et l'eau, les hommes et la mer. Et vous avez remarqué ce que fait Jésus. Est-ce qu'il fend la mer? Non. Est-ce qu'il fait baisser les eaux? Non. Est-ce qu'il arrête le vent tout de suite? Non, 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 non. La chose que le Seigneur Jésus va faire, et tout le Nouveau Testament nous l'explique, c'est qu'il n'intervient pas tout de suite sur les éléments déchaînés, mais sur le cœur des hommes. Il nous change intérieurement. Autour de nous, c'est pareil. Dans le monde que nous vivons, c'est pareil. Quand il pleut, qu'on soit croyant ou non, on est mouillé, n'est-ce pas? Le virus, il nous frappe, et il frappe tous. Mais, dans le Nouveau Testament, Jésus change notre état de voir les choses. La preuve, puisque Pierre va lui dire « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi ». Donc à ce moment-là, Pierre ne voyait plus la même chose. Oui, le Nouveau Testament, c'est ce miracle des miracles qui fait de nous une nouvelle créature où Dieu, avant d'appuyer sur tout ce qui est autour de nous, commence à changer notre cœur. Car c'est là le cœur, frères et sœurs, que nous avons et qui doit être entièrement au Dieu vivant et vrai. L'Écriture nous montre qu'il n'a pas écarté la mer, il pouvait le faire, hein, croyez pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, l'Écriture nous dit qu'il a tout simplement, dans sa grâce infinie, donné à Pierre son pouvoir, à lui Jésus, de marcher sur les eaux, comme on marche sur l'estrade. Ça veut dire que Pierre pouvait tout faire. Mais vous aussi, mes frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons tout faire. Attends, il n'est pas fini. Hein. Paul dira, je puis tout. Par qui? Par celui qui me fortifie. Si je suis fortifié par Dieu, alors je peux tout. Et c'est ce qui s'est passé quand le peu... Oui, je sais. Le peu Pierre a marché sur les eaux, ça n'a pas duré longtemps, mais le peu qu'il a fait, c'est inhumain, marcher sur les eaux, le peu qu'il a fait, c'est la force qu'il a reçue de Dieu. Et ça, c'est ce que m'apporte le Nouveau Testament. Car mes frères et sœurs, les apôtres qui sont dans la barque, c'est quand même pas des petits enfants, hein. Quand ils voient une lumière, un personnage sur les eaux, ils disent, c'est un... fantôme, voyez-vous, c'était déjà Halloween à l'époque. Vous voyez déjà les fantômes. Non, ce n'était pas un fantôme. Non, ce n'était pas une illusion. C'était une réalité. Mes frères et sœurs, regardez. Quand Pierre obéit à la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il marche sur ce qui lui faisait peur, la mer déchaînée. Il marche dessus. C'est-à-dire, ce qui l'agitait devient solide. Et la deuxième chose. L'Écriture nous dit que les apôtres avaient du mal à avancer parce que le vent était contraire. Mais quand Pierre est sorti de la barque pour aller vers Jésus, le vent était derrière. Si bien que tous les obstacles qu'ils avaient avant ont été absolument détruits par la grâce de Jésus-Christ. En obéissant au Seigneur, il n'avait plus le vent en face, il avait le vent dans le dos et il avançait. Mes frères et sœurs, depuis que vous êtes à Jésus-Christ, vous aussi vous êtes passés par des tempêtes. Et comment se fait-il que vous êtes là ce matin, Bible ouverte et les oreilles pour écouter? Parce que Parce que quoi ? Parce que vous savez, parce que vous l'avez vu, que la grâce de Dieu vous a secouru au moment où tout s'effondrait. Et si vous êtes là à écouter, c'est parce que Dieu vous a gardé. Un regard sur la parole de Dieu, sur l'Ancien et le Nouveau Testament, nous amène maintenant, si vous le voulez voir, à un deuxième regard. Le deuxième regard, il n'est plus sur Pierre. Il n'est plus sur la tempête. Il est sur Jésus. Je voulais souffler, mais vous le saviez. Il est sur Jésus. Et je me dis, si Jésus a marché sur les eaux, c'est possible un humain de marcher sur les eaux. Parce que celui qui marche sur les eaux, ce n'est pas une apparition, hein, ce n'est pas une vision, ce n'est pas du délire, c'est vraiment un homme. Parce que Jésus-Christ est à la fois homme et à la fois Dieu. Dieu dans l'homme, c'est la force qui nous fait marcher sur les difficultés d'existence. Et ce Dieu-là est avec nous ce matin pour nous aider à aller plus loin. Jésus, d'ailleurs, nous montre qu'il a marché sur les eaux. Regardez. Il a été victime d'injustice. Pas vrai ? Sa famille lui a tourné le dos et disait « Il est hors de sens !» Un de ses amis avec lequel il avait vécu pendant 3 ans l'a trahi. Judas. Un autre sur lequel il avait compté et qu'il avait appelé Roc, Pierre, l'a renié. Et tous les autres l'ont abandonné. Oui, il est passé par tout cela, il n'a jamais cédé un pouce. Et il dira, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et parce que j'ai vaincu le monde, votre victoire, c'est la mienne. Regardez, humainement parlant, la croix, c'est quoi la croix ? C'est un supplice, c'est de la torture. On enfonce des clous dans la chair humaine, dans les pieds, on met une couronne d'épines sur la tête, on l'a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a cloué. C'est une image de torture intenable. Eh bien Dieu aujourd'hui a transformé la croix en malédiction en bénédiction. Il y a un vieux chant qui dit « C'est à la croix que le chemin commence. » Dieu change le mal en bien. Mon frère, ma sœur, qui peut être passé par une certaine tempête, physique ou conjugale, morale ou financière, je peux te dire que ce matin, Dieu a changé ce mal en bien. Nos frères et sœurs l'ont chanté, vous l'avez vu et entendu. Quand Jésus vient, c'est la tempête qui recule, pas Jésus. Quand Jésus vient, c'est Satan qui s'en va, mais pas Jésus. Or, dites-le avec moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, je tiens le coup. Et j'ai été frappé parce que dit le Seigneur dans Apocalypse, je regarde si je vous fatigue pas trop. Hein. Apocalypse chapitre 3, au verset 1, je crois que Jésus dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône, comme moi j'ai vaincu. » Un regard sur Jésus, ce n'est plus le regard sur la mort, c'est le regard sur la vie. La croix est vide, Christ est ressuscité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que Pierre marche sur les eaux ? Son regard est sur Jésus. Alors bien sûr, peut-être vous l'avez lu vous-même, il y a des prédicateurs et des théologiens à 3 étages, sans ascenseur, du point de vue intelligence, qui vous diront, oui, mais vous savez, Pierre, c'est un impulsif, c'est un nerveux, il a voulu en mettre plein la vue aux autres, et glou glou glou, il va couler, c'est bien. Moi, je ne pense pas. Regardez, quand il a entendu Jésus dire, rassurez-vous, c'est moi, il n'a pas sauté tout de suite. Il a dit, si c'est toi, ordonne. Je veux l'entendre de ta bouche, Seigneur. Je veux entendre de ta bouche que je peux marcher sur les eaux. Et si je ne l'entends pas de ta bouche, je resterai là. C'est ça que ça veut dire. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Moi, j'y vois là une soumission à la personne de Jésus. Et c'est ça qui nous permet de marcher sur les eaux, quand on est soumis. Seigneur, si c'est toi. Regardez, cette belle prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la première chose que je voudrais dire, mais qui soit gravée dans votre cœur, c'est que si Pierre a marché pendant un temps sur les eaux, c'est qu'il a été soumis à ce que Jésus lui a dit. Lorsque Jésus avait dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et vous savez, il y a des paroles en l'air qu'il ne faut pas croire. Or, Jésus avait dit à ses apôtres, « Mes brebis connaissent ma voix. » Et si c'était un fantôme ou n'importe quel sportif qui faisait ça, il aurait parlé, mais quand Pierre a entendu la voix, il ne s'est pas trompé, il dit, c'est bien la voix de Jésus. Et quand Jésus lui a dit, viens, hop, Pierre est venu. Non, ce n'est pas l'impulsivité, c'est de la soumission et de l'obéissance. À qui ? À la parole de Jésus. Jésus lui dit, viens. Et quand Jésus lui dit, viens, il vient. Quand Jésus dit à un paralytique, marche, il marche. Quand Jésus dit à un mort, Lazare, sort, il sort. La parole de Jésus est une invitation à la victoire. Non pas être caché dans un petit coin comme des peureux dans une caverne. Et pouvant chanter dans sa caverne, quel repos céleste, Seigneur Jésus, d'être à toi. Non, 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 sors, va, allez, et prêchez la bonne nouvelle. Ça n'empêche pas d'avoir la sagesse, bien entendu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce que je vous dis là, il marche sur les eaux. Et pendant tout ça, pendant la parole de Jésus, pendant l'appel de Jésus, pendant les premiers pas de Pierre, la tempête n'a pas cessé. Ça souffle toujours autant. La mer remue autant. Mais s'il peut faire quelques pas, c'est parce qu'il se confie à cette parole. Peut-être il y a des frères et sœurs jeunes qui m'écoutaient. Mes frères et sœurs jeunes, je voudrais vous dire ce matin que dans l'épître de Jean, Jean dit « Jeunes gens, vous êtes forts. » Pourquoi ? Parce que la parole demeure en vous. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, est une puissance qui nous fait marcher sur les eaux. Et bien sûr, bon, alors Pierre, il est un humain comme vous. Et bon, il fait quelques pas, mais il a le malheur. Regardez ce petit verbe « voyant ». Il voit plus. Il voit quoi ? Eh bien, il voit toujours la même ambiance. Hein. Le vent, la pluie, le vent, la mer déchaînée, la nuit. Il voit toujours ça. Et à ce moment-là, il se dit Oh là là ! Qui je suis ? Je suis un homme. Où je suis ? Mais je suis sur l'eau, mais j'ai coulé. Et où ? C'est une logique normale. C'est pas du fanatisme, ça. C'est une logique normale. Un homme qui marche sur l'eau, il coule. Pas vrai ? Bon, alors. Jésus entend sa voix qui lui dit « Seigneur, sauve-moi. » Ça, c'est sa deuxième prière. La première prière, « Seigneur, ordonne. » Maintenant, « Seigneur, sauve-moi. » Mes frères et sœurs, ça veut dire qu'on peut répondre à la voix de Dieu et avoir des luttes, des combats qui auraient tendance à nous enfoncer. Mais comme l'ont dit nos frères et sœurs dans le chant, il faut tenir bon après avoir tout surmonté. Alors, ce qui est frappant, c'est que Jésus dit, prend son disciple par la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez remarqué ? Seigneur, sauve-moi ! Est-ce qu'il est écrit ? Et Jésus lui dit, allons, allons, Pierre, t'es pécheur du nerf ! Non. Seigneur, je coule. Allons, Pierre, tu sais nager. Non. Seigneur, je coule. Oh, mais allons, allons, Pierre, secoue-toi un petit peu. Je coule. Mais voyons, Pierre, reprends-toi en main. Est-ce que Jésus lui donne une leçon de morale ? Non. La première chose que fait Jésus, c'est de le saisir par la main. Ma soeur, mon frère, avec tous tes doutes, tes craintes et tes angoisses, il m'a chargé de vous dire ce matin, sa main est là, tout prêt, à te saisir pour faire de toi ce vainqueur. Et la main était là pour faire sortir Pierre de l'eau. Oui, on s'en sort toujours avec Dieu. Car le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, elles entrent et elles sortent. Elles ont découvert la liberté. Ainsi, quand on souffre, on doit se souvenir de cette même parole, cette prière. Seigneur, sauve-moi. Ce n'est pas la prière d'un païen, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Ma sœur, mon frère, n'en fais pas des tonnes. Ne t'imagine pas que plus tu vas en dire. Non, si le mot que tu dis sort de ton cœur, alors l'Écriture dit, quand un malheureux crie, qu'est-ce qui se passe là-haut ? L'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mes frères et sœurs, je termine par un troisième regard. Regard sur le Nouveau Testament. Il nous change intérieurement. Regard sur la personne de Jésus, en qui nous avons tout pleinement. Et troisième regard, regardons la barque. Et posons-nous la question suivante. Mes frères et sœurs, dans la barque, à quel moment le vent s'arrête-t-il ? Au moment où Jésus se trouve au milieu des siens. Parce que Jésus ne veut pas que Pierre se gonfle. Si la tempête était arrêtée au moment de Pierre, tout seul, alors il dit oui. Mais le Seigneur a en vue votre salut et le mien. Et il ne veut pas qu'on soit des super spirituels meilleurs que les autres. Non. C'est quand il a mis les deux pieds dans la barque que le vent a cessé. Ça s'appelle la communion fraternelle. Le Seigneur aime à ce que nous soyons ensemble. Là, j'ai dit deux ou trois. Et le virus fait tout ce qu'il peut pour nous séparer les uns des autres. Mais il ne réussit pas, la preuve. C'est qu'au travers de la technique, ce matin, nous sommes en communion les uns avec les autres pour bénir et glorifier le nom du Seigneur. Et regardez, quand Jésus est dans la barque, c'est plus les mêmes cris, c'est plus la même voix. Quand Jésus n'était pas dans la barque, il criait, c'est un fantôme. Ne les jugeons pas, mes frères et sœurs. Ils avaient quatre ennemis devant eux. La nuit, on ne voit pas. Le vent, essayez de l'arrêter, vous. La mer, essayez de la calmer, vous. Le bruit. Et quand ils ont vu Jésus qui venait leur délivrance, ils l'ont pris. Et c'est ce qui leur a fait peur. C'est que Jésus vienne sur les eaux. Ça leur a fait peur. C'est le comble. La délivrance qui vient vers Dieu leur fait peur. Et Jésus était plus loin. Et quand il est rentré dans la barque, les Bibles nous disent, le vent, c'est ça. La mer se calma. Le bruit s'apaisa. Et la lumière brillait, puisque Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Voilà que dans cette barque qui a commencé dans la panique, se termine un culte d'adoration et de louange. Frères et sœurs, que ce matin, Dieu se serve de ces pauvres paroles qui sont les miennes, pour que vous puissiez vous relever et sortir de cet état dans lequel vous pouvez vous trouver. Vous savez, les apôtres avaient ces quatre ennemis. Et Jésus nous dit qu'à la fin des temps, les hommes rendront l'âme de terreur. Au bruit de quoi ? De la mer et des flots. Mais vous, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tu vas t'en sortir, mon frère. Tu vas t'en sortir, ma sœur. Ce malade que tu as laissé à l'hôpital, le Seigneur est capable ce matin, pendant ce programme, d'aller poser la main sur lui. Tu as laissé peut-être de la souffrance pour prendre un temps et lire la parole de Dieu au culte. Mais Jésus te dit, retourne, retourne. Seigneur, qu'est-ce que je lui dis ? Retourne avec la force que tu as. Et le vent qui t'a accablé va te pousser. Et la mer qui s'est déchaînée à tes pieds et qui t'a mouillé, tu vas marcher dessus. Car il a dit, Jésus, vous marcherez sur le serpent et sur la spique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un serpent, moi j'aime pas trop. Les serpents et les rats, même les souris, n'est-ce pas, mesdames ? Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Le serpent, il est dangereux à la tête. Et le scorpion, il est dangereux à la queue pour nous dire que vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Car de la tête à la queue, Satan est vaincu et vous êtes vainqueur. Et à cause de cela, ce matin même, pendant ce culte, vous pouvez saisir la victoire. Oui, la Bible nous dit, quand l'Éternel,
vous lirez ça, je crois que c'est dans les Proverbes, Proverbes 16, 27, il dit,
quand l'Éternel approuve le cœur d'un homme, d'une femme, il dispose en sa faveur même ceux qui sont contre lui. Qu'est-ce qui est contre vous ? La nuit, frère, Mouzarou, on est dans la nuit, on ne voit rien. Bon, qu'est-ce qui est contre vous ? Oh, on ne sort pas. Le vent, ça brûle, autour, ça gronde autour de nous. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et en dessous, mes bases sont en train de remuer. D'accord ? Et de mes oreilles sont en train d'entendre la voix du vent. Eh bien, moi, je voudrais vous dire, en terminant, que celui ou celle qui entend sa voix n'endurcisse pas son cœur. Et peut-être que Jésus va vous dire, petite foi, c'est un autre nom, hein, ça, petite foi. Peut-être que moi aussi, qui vous parle, je suis certainement petite foi. Ça, c'est Dieu qui donne les grades, mais pas nous. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-il écrit ? Je serai avec toi. Et dans un autre psaume, je crois que c'est David qui dit, quand on traverse la vallée de Baca, on la transforme en un lieu plein de sources. Je voudrais terminer par cette phrase d'un cantique. Vous savez, les psaumes, on les aime beaucoup, ils sont magnifiques. Mais le Seigneur ne nous a pas donné la musique. Mais les paroles sont toujours là. Alors, il y a un vieux recueil. Et je vais vous dire tout de suite, ne pensez pas que je suis un vieillard rabâcheur. Mais il y a un vieux recueil dans lequel moi j'étais élevé depuis tout petit. Il s'appelle « Les ailes de la foi ». Et j'étais frappé par la puissance de certaines paroles. Il y a un chant qui porte, je crois, le numéro 600 dans « Les ailes de la foi » qui dit « Ma vie, enfin, je te donne. Ô Jésus, agneau de Dieu, si je regarde à moi-même, un instant, je suis perdu. Mais tu sauras, Seigneur, mon cœur t'aime me tenir debout, Jésus. Amen. » Prions si vous voulez. Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, nous voulons t'invoquer comme notre Père qui est dans le ciel. Nous crions à toi, Seigneur, pour que pendant que nous invoquons ton nom, tu ailles dans chaque foyer, dans chaque maison de l'Assemblée de Saint-Étienne du Rouvray, mais aussi de tous ceux qui regarderaient cette émission. Seigneur, tu vas dans la maison, là où ils sont, et tu apportes toute ta grâce, toute ta force. Tu les secours puissamment, Seigneur. Aujourd'hui même, nous ne voulons plus regarder à nous-mêmes, mais fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, afin que nous ne nous lassions point l'âme découragée. Qui, dit un vieux chant, Seigneur, qui me relève dans mes chutes ? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes ? C'est Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, tu bénis ton peuple, tu bénis tes serviteurs ici à Saint-Étienne, tu bénis Yvan Cassard, tous les frères et sœurs qui travaillent pour la victoire de l'Assemblée, pour nos frères et sœurs qui chantent à ta gloire, pour toute cette ville, merci d'étendre tes mains au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes